BFM. Les grands débats du mardi. Philippe Manière.
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans les grands débats de BFM avec l'Institut Montaigne. Nous voici réunis comme tous les mardis pour deux heures de discussion, de débats contradictoires bien sûr, autour du sujet de politique publique que nous avons choisi pour vous. Nous allons maintenant méthodiquement l'éplucher, ce sujet, avec mes invités, des experts, des élus réunis pour vous dans les studios de BFM ou bien alors en direct avec nous en duplex. Alors le principe de l'émission, son découpage, vous les connaissez en première heure. Nous allons examiner le sujet du jour dans sa dimension franco-française. Nous parlerons toute la matinée du train de vie de l'État. Et puis en deuxième heure, nous nous comparons aux autres. Nous allons voir ce qui se passe sur le même sujet dans quelques autres pays. Alors aujourd'hui, je vous emmènerai en Suède, encore une fois. Et oui, il y a beaucoup de choses à apprendre de ce pays qui lui aussi a vu ses dépenses publiques déraper par le passé, mais qui a réussi un extraordinaire redressement grâce à des règles, vous allez le voir, toutes simples. À Stockholm, toute nouvelle dépense doit être compensée par une coupe équivalente ou par de nouvelles recettes. Les programmes et les organismes qui n'ont plus d'utilité sont purement et simplement abandonnés. Et puis, ce n'est pas seulement symbolique, les membres du gouvernement donnent l'exemple avec des crédits de représentation, eux aussi limités et suivis de très près par le Parlement et aussi par les médias. Mais la Suède n'est pas le seul élève vertueux de la petite classe européenne. En fait, dès que l'on regarde vers le nord, on trouve des recettes utiles pour la sobriété publique, que ce soit aux Pays-Bas, en Finlande ou même d'ailleurs en Belgique. Alors comment font la Suède et les autres pour réduire le train de vie de l'État? Comment s'en inspirer? Ce sera le second des grands débats du jour. Tout de suite, notre premier grand débat. Qu'en est-il en France? Que va faire le nouveau président de la République dans ce domaine 8 jours après l'élection de Nicolas Sarkozy? Alors qu'approche son entrée en fonction, il est temps de se pencher sur ses intentions, sur cette question essentielle. Et on commence par un rapide état des lieux avec, bien sûr, Graziella Rodriguez.
Les grands débats de BFM.
Réduire le train de vie de l'État, c'est d'abord s'attaquer à la dette. Rappelons qu'elle atteignait tout de même près de 64% du PIB fin 2006. Nicolas Sarkozy s'est engagé, avant son élection, à ramener la dette publique à moins de 60% du PIB d'ici 2012. Il entend limiter la hausse des dépenses à 1,8% par an, mais aussi abaisser les prélèvements obligatoires de 4% du PIB sur 10 ans. Une proposition diamétralement opposée à celle du Parti Socialiste et de l'UDF. Ségolène Royal l'avait annoncé, elle ne visait pas de baisse des prélèvements obligatoires. Pour réduire la dette publique, elle proposait plutôt de réduire le train de vie de l'État, un sujet sur lequel Nicolas Sarkozy, lui, ne s'est pas prononcé de manière radicale. Mais elle voulait aussi limiter le nombre de ministères, et là, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal étaient d'accord. La candidate socialiste souhaitait ainsi soumettre le budget de la présidence au Parlement et au contrôle de la Cour des comptes, épinglant régulièrement la dérive des dépenses de l'Élysée. François Bayrou, lui, avait une idée simple sur les questions de finances publiques. Il voulait interdire au gouvernement de présenter un budget en déficit et même inscrire cette interdiction dans la Constitution. Mais Nicolas Sarkozy n'a pas évoqué cette perspective.
Voilà, merci Graziella. Alors c'était un petit retour en arrière, hein, 8 jours après l'élection. C'est intéressant de voir un peu ce que les candidats avaient dans leur carton, à commencer bien sûr par celui qui a triomphé, hein, qui a été élu. On va discuter de tout ça tout de suite avec mes invités que je vous présente. Hervé Novelli est député UMP d'Indre-et-Loire. Il est présent du groupe des réformateurs à l'Assemblée nationale, membre de la commission des finances, j'allais dire sortante. Bonjour Hervé Novelli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct, avec nous par téléphone, et on le remercie. Christian Bataille, député socialiste du Nord, vice-président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Bonjour Christian Bataille.
Bonjour.
Et puis en direct de son propre fief, Charles de Courson, député UDF de la Marne. Il est, on le sait, un spécialiste du budget. Lui aussi, on est très heureux de le retrouver. Bonjour Charles de Courson.
Bonjour.
Alors, cette question du train de vie de l'État, on va essayer de la traiter aujourd'hui, si vous le voulez bien, messieurs, dans sa double dimension. Il y a une dimension, j'allais dire, macroéconomique, importante objectivement, qui est celle de la dette, du déficit et de la capacité à rembourser, de l'équité intergénérationnelle, etc. Puis une autre question un petit peu moins abordée, mais au moment où on voit arriver un nouveau président de la République, il faut également se poser la question, c'est celle, disons, des dépenses symboliques, des dépenses de palais, des dépenses qui ont trait à la représentation et au train de vie de nos élus, à commencer par le plus important d'entre eux. Alors, peut-être tout de suite sur la partie la plus importante, évidemment, c'est-à-dire la dette, le poids de la dette. Je voudrais quand même votre avis, Charles de Courson, sur ce qu'il est advenu de cette thématique au fil de la campagne. Moi, j'ai l'impression que au début, grâce à votre candidat, grâce aussi aux efforts de la société civile, je pense en particulier au site Débat 2007 et à l'Institut de l'entreprise, alors c'était vraiment un peu à la surprise générale un énorme sujet de campagne. Puis avec le temps, tout le monde s'en est un peu fichu de la dette. Et à la sortie, j'ai trouvé qu'il y avait plus grand monde que ça préoccupait véritablement. Ça reste une préoccupation pour vous, Charles de Courson ?
Tout à fait, parce que de toute façon, avec le nouveau président Nicolas Sarkozy et le nouveau gouvernement qui sera issu dans quelques jours maintenant, le problème, il est là, il est devant, quel qu'ait été le résultat des élections. Or, vous l'avez dit, ce sujet a été l'un des thèmes de la campagne, plutôt en début de campagne, et après, comme hélas d'autres sujets, on a vu une campagne un peu de zapping.
C'est ça, ouais.
Mais les réalités sont là. Et je crois que, plutôt que parler de train de vie de l'État, parce que train de vie de l'État, pour beaucoup de nos concitoyens, ils s'imaginent qu'il y a des dépenses énormes en frais de représentation, en voiture, en avion, bien sûr, en rémunération des élus, toutes ces questions. Il y a un effort à faire dans ce domaine. Mais il faut bien voir que par rapport aux masses budgétaires brutes du budget de l'État, qui est de 370 milliards, c'est ce train de vie au sens restreint, si vous voulez. C'est peu de choses, c'est 1 à 2%.
Mais il y a quand même la symbolique derrière Charles de Courson, vous le savez bien. Je prends un exemple au hasard, je n'ai pas fait l'enquête moi-même, mais si on s'en remet à un travail qui semblait assez sérieux d'un sénateur socialiste, les frais de l'Élysée auraient augmenté de 700% sur 10 ans. Comment dire, c'est pas la peine d'être particulièrement castrateur pour considérer que c'est un chiffre élevé.
Tout à fait exact, mais vous évoquez René Dosière, puisque voilà. C'est lui qui a sorti cela. Le problème de budget de l'Élysée, c'est qu'il n'y a pas de vrai budget de l'Élysée.
Ouais.
Donc la clarté, ça serait que le président ait un vrai budget avec l'ensemble des moyens qui concourent au bon fonctionnement de la présidence de la République, que ce soit clair. Et que le président, le nouveau président, puisse montrer qu'il donne l'exemple, car quand on donne l'exemple, on peut dire à ses ministres,
exactement,
écoutez, moi je sers le budget, mon propre budget, serrez le vôtre, et attaquons-nous à toute une série de postes de dépenses publiques qui sont bien au-delà du train de vie de l'État, c'est-à-dire les systèmes d'aide aux entreprises, les systèmes d'aide aux ménages, les systèmes d'aide aux collectivités territoriales.
Et j'ai l'impression, Charles de Courson, que dans tous ces systèmes d'aide que vous venez d'évoquer, vous avez le sentiment qu'il y a des coupes à faire sans que ça fasse trembler le pays sur ses bases.
Non mais écoutez, toute sensibilité confondue en commission des finances, Hervé Novelli en est membre, il peut en témoigner, on voit bien qu'on a quand même des questions devant nous. Par exemple, c'est l'un des thèmes qui était ressorti de nos travaux à la commission des finances, toutes tendances confondues, c'est l'efficacité par exemple des exonérations de charges sociales à l'égard des entreprises, c'est l'efficacité de l'ensemble de notre système d'aide, c'est un thème cher à Pierre Méhaignery, en matière d'aide aux collectivités territoriales. On voit qu'on est un peu au bout du rouleau.
Il y a plein de choses à faire dans cette matière. Christian Bataille, votre sentiment, est-ce que votre candidate avait beaucoup insisté sur le fait que si elle était élue, elle aurait fait pas mal de choses en matière de réduction, disons justement, des dépenses d'apparat, du train de vie visible des élus, de l'État. En revanche, peut-être pas une insistance considérable sur les questions de dette et de déficit. Comment voyez les choses dans cette matière pour l'avenir, maintenant qu'on sait qui est le président ?
Oui, alors, deux points. Tout d'abord, la réduction de la dette de la France, tout le monde est d'accord. Mais là où nous divergeons, c'est sur les moyens d'y parvenir. La dette, c'est l'emprunt, et par conséquent, ce que l'on n'emprunte pas, il faut l'obtenir autrement, et notamment par l'impôt. Il y a donc une contradiction dans le discours du président nouvellement élu, de sa majorité parlementaire actuelle et non future, j'espère bien, dans le discours qui consiste à dire on réduit la dette, on réduit les impôts, à moins de réduire les dépenses. Et c'est là où, évidemment, nous divergeons également, puisque un des principaux leviers de la réduction des dépenses avancées par M. Sarkozy, c'est de réduire le niveau du service public et, par conséquent, de réduire les personnels dans les hôpitaux, dans l'éducation et dans bien d'autres secteurs.
Mais Christian Bataille, si vous admettez qu'il y a un problème d'efficacité, et je crois que beaucoup de gens en conviennent aujourd'hui, vous pouvez parfaitement imaginer qu'on réduise les moyens sans réduire la qualité des services publics. Parce qu'au bout d'un moment, on sait bien qu'avoir trop de moyens, c'est même un facteur de déefficacité.
Écoutez, ce n'est pas aujourd'hui aujourd'hui que vous réussirez à me convaincre qu'en réduisant les moyens de l'hôpital, on améliore la qualité du service rendu en matière de santé, ou idem pour l'éducation, idem d'ailleurs pour la sécurité.
Bon, je m'en doutais, on peut toujours tenter, mais je m'en doutais. Oui, allez, on continue le tour de table, puis je vous redonne la parole dans un instant.
Une démonstration que M. Sarkozy n'a pas su faire.
D'accord.
Alors, maintenant, vous m'interrogez sur le train de vie détaillé. Bon. Alors, je précise que c'est mon excellent collègue socialiste René Dosière qui s'est attaché au train de vie de l'Élysée. Car quand on parle du train de vie de l'État, on pense surtout au train de vie de l'État central. Hein, je vis au contact aussi, comme tous les parlementaires dans ma région, des services décentralisés de l'État, des préfectures, des sous-préfectures, qui ne me semblent pas faire de dépenses démesurées. Il n'en va pas de même quand on regarde ce qui se passe à l'Élysée avec un budget opaque.
Christian Bataille, ce que je vous propose... Christian Bataille, vous me donnerez un exemple juste après la pause. On marque une petite pause et puis on se retrouve avec vous, avec Hervé Novelli, à qui je voudrais donner la parole, et puis avec Charles de Courson. Que propose le PS, l'UDF, l'UMP pour réduire le train de vie de l'État? Que fera Nicolas Sarkozy dans cette matière? C'est le premier des grands débats du jour sur BFM.
Chaque matin à 6h50 et le soir à 19h55, retrouvez Compétences, la chronique emploi de BFM. Quel que soit votre secteur d'activité, découvrez chaque jour de nouveaux postes à pourvoir avec MediaRH.com, le premier site d'emploi qui donne au quotidien la parole aux entreprises qui recrutent. BFM, la radio de l'écho.
Les marchés, Perrine Créqui.
Et on commence par un zoom sur Alstom. Alstom qui confirme son redressement. Le groupe français a vu son résultat net plus que doublé en 2006, plus 152% à 448 millions d'euros. Une croissance tirée par l'énergie. Alstom confirme aussi toujours s'intéresser au dossier Areva, mais pour l'instant, il reste dans l'attente d'une décision du futur gouvernement. Décision d'ouvrir le capital du groupe nucléaire.
La situation est très simple dans ce domaine comme dans les autres. Nous avons la croissance organique qui est la base de notre développement. Nous pensons, je l'ai dit avant l'élection présidentielle, et je n'ai pas changé d'avis, qu'un renforcement des liens avec Areva aurait du sens. Bon, aujourd'hui, l'ouverture du capital n'est pas à l'ordre du jour. S'il le devenait un jour, on verrait. Vous savez, nous avons suffisamment d'opportunités et de projets qui ont un caractère concret pour ne pas réfléchir à des sujets qui restent théoriques.
C'était donc Patrick Cron, le PDG d'Alstom, qui était l'invité de Stéphane Soumier dans Good Morning Business ce matin. Et on met le cap sur la bourse de Paris où l'euro s'échange actuellement 1,3539 sur le CAC 40 qui s'établit actuellement à 6003 points. C'est un léger repli, moins 0,4%. Parmi les plus fortes hausses du CAC, on notera Bouygues qui est actuellement en hausse de près de 1%. Plus forte baisse, c'est Danone. Et également, parmi les valeurs à surveiller aujourd'hui, nous signalerons Morel et Prom et Technique notamment, qui publient leurs résultats aujourd'hui. BFM, il est 10h16.
Coldwell Banker Immobilier, un réseau mondial distinctement différent. Pour acheter ou vendre, choisissez Coldwell Banker.
Tous les quarts d'heure, un point sur les marchés boursiers, uniquement sur BFM.
Et on retrouve Philippe Manière pour les grands débats.
BFM, les grands débats du mardi, Philippe Manière.
Et on se retrouve avec Charles de Courson, député UDF de la Marne, spécialiste du budget, Christian Bataille, député UPS du Nord, vice-président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, Hervé Novelli, député UMP d'Indre-et-Loire, président du groupe des réformateurs à l'Assemblée nationale et membre de la Commission des finances, pour évoquer cette question de la réduction du train de vie de l'État. Que fera Nicolas Sarkozy? Que fera son gouvernement dans cette matière? Et que proposaient les différents candidats avant l'élection? Et comment, j'allais dire, essayer de combiner un petit peu leur vision du monde? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec mes trois invités. Je reviens rapidement vers Christian Bataille qui nous exposait son point de vue sur les dépenses de l'Élysée. Et tout de suite après, je donnerai enfin la parole à Hervé Novelli qui a été bien patient. Christian Bataille.
Oui, je voulais vous donner un simple exemple. Les dépenses d'avions de l'Élysée sont tout à fait opaques. Et les dépenses d'avions des ministères, on nous avait, lors de l'élection de Chirac, tenu un discours impressionnant en disant « Désormais, c'est l'État modeste, on supprime les avions et on supprime le GLAM, qui était le service distributeur-répartiteur des moyens aérien du gouvernement. Et puis on s'aperçoit que effectivement le GLAM a été supprimé, mais que les avions sont restés et les déplacements excessifs et personnels parfois sont restés les mêmes. Donc il y a eu un discours et qui a été suivi d'un rideau de fumée et d'une non-application. Ouais. Et il en va de même dans d'autres domaines. La réduction des effectifs des cabinets ministériels avait fait l'objet...
Là aussi, il y avait eu des promesses, effectivement.
Il y a quelques années. Et les effectifs des cabinets
ministériels... Bon, on va voir ce qu'il en est.
...une croissance exponentielle.
On va voir ce qu'il en est, Christian Bataille, avec la composition du gouvernement dans quelques jours. Et puis, la pratique de ce nouveau gouvernement, on verra si elle est plus modeste que ce qu'on a vu jusqu'alors. Je me tourne maintenant vers Hervé Novelli. Merci encore une fois d'avoir été patient, Hervé Novelli, et d'attendre la fin des interventions de nos deux autres... de nos deux autres invités. Votre sentiment sur l'action, Agélie, c'est vous qui êtes le plus proche du pouvoir aujourd'hui. Hein. Vous faites campagne actuellement.
Mais je rappelle que Charles Amédée Dubuisson a soutenu notre candidat au second tour.
Au second tour, absolument. Mais Hervé Novelli, si je ne m'abuse, vous étiez dès le premier tour.
Certes, c'est vrai. Vous êtes un fin observateur.
Oui. Et donc, est-ce que dans cette matière, vous avez le sentiment que Nicolas Sarkozy est sensible, alors d'une part, sur le fond, à la question des déficits, qui a semblé être plutôt, j'allais dire, une thématique, honnêtement, alors pour le coup, du chouchou de Charles de Courson au premier tour, c'est-à-dire de François Bayrou. Et puis au-delà, est-ce qu'on peut compter sur lui pour être économe des deniers publics, y compris dans la pratique quotidienne ?
Écoutez, moi je crois que Nicolas Sarkozy y est très sensible. D'abord, il a été ministre de l'économie et des finances. Et je rappelle qu'il avait déjà, à l'époque, posé le problème, qui est un problème fondamental dans notre pays, que le niveau excessif des dépenses publiques. Parce que c'est cela qui est aujourd'hui en cause. Pourquoi est-ce qu'il y a un endettement pharaonique ? Parce que, année après année, le budget de l'État souffre d'un déficit très important. Il faut donc s'attaquer à ce déficit. Vous avez deux niveaux de réponse. Soit vous augmentez les recettes, les impôts. On sait très bien que cela est très nocif. L'impôt est... en ce qui me concerne, quelque chose à proscrire absolument.
Peut-être pas tous les impôts, mais voilà, compte tenu du niveau où on est, vous voulez dire peut-être.
Absolument, oui. On a des taux de prélèvement obligatoire, on sait bien qu'ils sont au-dessus de la moyenne européenne, donc on ne peut pas augmenter les impôts. Il faut donc réduire les dépenses. Et c'est cela qui est posé, et je crois que Nicolas Sarkozy l'a posé très clairement. D'abord, il a remarqué que près de la moitié du budget de l'État est constitué des salaires et pensions de la fonction publique. Donc, il a fait une proposition qui me semble pleine de bon sens, c'est que aujourd'hui et dans les années qui viennent, beaucoup de fonctionnaires partiront à la retraite. Il s'agit de faire en sorte que globalement, on tende vers une norme qui consiste à ne remplacer qu'un fonctionnaire sur deux. Mais cela serait trop comptable. Et c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy, tout au long de cette campagne, a bien indiqué qu'il y aurait ce que l'on appelle une réforme de l'État, c'est-à-dire une réflexion sur le périmètre de l'État. Je rappelle que son gouvernement, qu'on connaîtra peut-être dans quelques jours, eh bien, ce gouvernement sera un gouvernement resserré. Et pourquoi sera-t-il resserré ? Eh bien, parce qu'il y aura des regroupements. Et je pense que c'est le premier pas vers une réforme de l'État. Il faut s'interroger sur le périmètre de l'État. Et l'idée qu'il a émise au long de cette campagne, c'est aussi d'avoir à côté de lui, à l'Élysée, quelqu'un qui sera spécifiquement chargé, avec un fonds alimenté par des recettes de privatisation, de gérer la réforme de l'État. Parce que la réforme de l'État, ce sont aussi des droits acquis.
La personne en cause sera à l'Élysée, à côté de lui, à ses côtés.
Absolument.
Hervé Novelli, quand même une question sur cette question sur ce point de la gestion des effectifs. Moi, j'ai l'impression que ça fait 15 ou 20 ans que la France vit avec une droite qui promet que si elle arrive au pouvoir, alors elle va diminuer le nombre de fonctionnaires, alors elle va remplacer. Moi, j'ai l'impression d'avoir entendu pratiquement tous les hommes de droite me dire si vous votez pour moi, un fonctionnaire sur deux ne sera pas remplacé, on va aller par à la retraite. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que d'abord, ça ne nous rajeunit pas, j'allais dire, mais on a vu parfois ça dans les projets. Quand on regarde en exécution en fin d'année, c'est pathétique. C'est-à-dire qu'au mieux, ça n'augmente pas. Mais
vous
par rapport
à
la promesse de diminution, on est vraiment très loin du compte. On peut être pour ou contre la diminution du nombre de fonctionnaires, mais en tout état de cause, l'annoncer tout le temps et ne jamais la faire, ça me paraît être un perdant-perdant.
Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'insistais sur le complément indispensable qui est la réflexion sur le périmètre. Qu'est-ce que doit faire l'État ? Qu'est-ce qu'il doit cesser de faire ? C'est donc cette réflexion que Nicolas Sarkozy a décidé d'engager et l'action avoir lieu très rapidement. Parce qu'une norme uniquement comptable de non-remplacement, elle est vouée à l'échec si elle n'est pas accompagnée de ce resserrement du périmètre de l'État, de cette réflexion sur ce qu'il convient de faire et de ne plus faire. Et c'est la raison pour laquelle je fonde beaucoup de confiance, parce que c'est le seul, c'est maintenant le président de la République depuis quelques jours, mais c'est aussi le seul qui ait clairement indiqué qu'il y avait lieu de changer ce périmètre de l'État, puisqu'il a lui-même indiqué gouvernement resserré, périmètre resserré et un fonds spécial alimenté par les recettes de privatisation pour gérer cette réforme de l'État.
Christian Bataille, est-ce que vous pouvez tout de même admettre, vous disiez tout à l'heure, c'est pas aujourd'hui que je vais vous convaincre qu'il faut moins d'infirmières, etc. C'est évidemment pas mon point, mais malgré tout, quand vous regardez les chiffres que vous voyez depuis 10 ans, il y a un seul pays dans l'Occident développé qui a encore accru sa fonction publique, l'atto sensu, de 1 million ou 1 million et demi de personnes. Est-ce que vous pouvez convenir que c'est tout de même de bon sens de regarder l'opportunité de faire évoluer ces grands bataillons et de ne pas forcément poursuivre dans le même sens, c'est-à-dire toujours plus. Alors qu'encore une fois, même les pays sociodémocrates ont très souvent diminué.
Oui, alors j'attends que M. Novelli me dise quel fonctionnaire il veut supprimer et ne pas remplacer.
Il ne parle pas encore de les supprimer physiquement.
Précision est utile.
S'agit-il des instituteurs, des infirmières, ou bien d'effectifs plus marginaux dans la fonction publique d'État? Parce que j'entends bien ce qui est dit d'une manière globale, mais tout cela n'est pas illustré. Nous avons une fonction publique importante, mais aussi un service public rendu qui est important. La qualité du service de santé en France doit être améliorée, mais elle est déjà supérieure à bien d'autres pays développés. Elle est supérieure à ce qu'elle est en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple, pays éminemment libéraux. Donc c'est bien une question de fond. Voulons-nous un État libéral avec moins d'impôts, moins de fonctionnaires, moins d'État? Ou bien voulons-nous un État qui soit une garantie, qui protège le citoyen, qui lui apporte une protection sociale, l'éducation, la santé, une protection physique aussi à travers la sécurité? C'est la question qui est posée. Monsieur Sarkozy a commencé à y répondre. Il va réduire les impôts et pour compenser cette réduction d'impôts, il va supprimer des postes d'infirmières et des postes d'instituteurs. Je dis bien des postes et non pas des personnes.
Oui. Bon, on marque une pause. Merci Christian Bataille. On marque une pause et puis on se retrouve dans un instant avec vous, avec Charles de Courson, avec Hervé Novelli. Que proposent les grands partis politiques et surtout qu'est-ce que le président de la République a en tête en matière de réduction du train de vie de l'État? C'est le premier des grands débats du jour et c'est bien sûr sur BFM.
BFM, la radio de l'écho, partout en France, à Toulouse et à Nantes, sur 107.2.
Une consommatrice marche à 50 cm seconde. Nos produits font 7 cm de large.
BFM à Paris sur 96.4 et à Lyon sur 95.3.
Ce qui nous donne 3 dixièmes de seconde.
On retrouve le
pour
professeur.
Déconstruire le bras qui se tend sur l'étagère et le produit qui tombe dans le caddie. 3 dixièmes de seconde pour convaincre, on n'a pas plus.
Toutes les fréquences de BFM sont sur le 36.67, 34 centimes la minute, ou sur radiobfm.com. BFM, la radio de l'écho, où vous voulez, quand vous voulez.
BFM, la radio de l'écho.
Les marchés, tout de suite, on retrouve David Doba.
Et la bourse de Paris a ouvert en baisse aujourd'hui. À l'ouverture, elle perdait 0,4%. Le CAC 40 qui cède désormais 0,24 à 6012 points. Alors, bien pour faire le point justement sur la séance à venir, nous retrouvons Jean-Louis Cussac de Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Ah, dites-moi, on s'approche dangereusement de la barre des 6000 points aujourd'hui?
Non, il n'y a pas de danger. Hein. Enfin, on y est, mais je veux dire, la situation n'est pas tendue actuellement. Il n'y a pas de grosse pression. Le marché est davantage hésitant, surtout que les déclarations de certains dirigeants ne sont pas très claires quant aux discussions en cours qu'ils ont ou auraient avec des prédateurs ou des partenaires potentiels. Alors, c'est vrai que les bancaires, qui étaient le principal moteur de la dernière impulsion haussière, restent tout de même à travailler ce matin et plutôt en hausse. Les derniers chiffres trimestriels publiés sont encore bons. Donc pas d'inquiétude à court terme, en tout cas pour le moment.
Bon, mais alors parmi les valeurs à suivre aujourd'hui, Valeo en tête des baisses du SRD, moins 3,8%.
débouclement de la spéculation sur Valeo. Donc plusieurs fonds d'investissement spécialisés dans les LBO auraient renoncé à déposer une offre jugeant le cours de bourse trop élevé. C'est repris notamment dans un article dans le Figaro. Ils n'envisageraient une reprise qu'à un prix maximal compris entre 35 et 38 euros par action. La fourchette de prix évoquée il y a déjà plus d'un an, même deux, était autour de 38-41 euros. Donc PAI Partners et Apollo auraient renoncé à déposer une offre la semaine dernière, ajoute le Figaro dans un article donc publié ce matin. Danone recule de 1% à 115,63. Elle est dégradée par Deutsche Bank à conserver contre acheter, estimant qu'il existe un risque significatif de voir les coûts de production agricole continuer d'augmenter pendant quelques temps encore, ce qui pèserait sur les marges du groupe. Donc Danone recule et Bouygues tout de même gagne 1%. Bon chiffre d'affaires supérieur aux attentes tiré par la construction.
Très bien, merci Jean-Luc Hussac. Je vous rappelle le CAC 40 à Paris, moins 0,3% ce matin.
Toute la bourse en temps réel, 36,67, le numéro boursier de BFM. 34 centimes la minute.
L'essentiel de l'info, Perrine Créqui.
François Fillon, de plus en plus favori pour Matignon, c'est Jean-Pierre Raffarin qui le dit ce matin. Bernard Kouchner, lui, serait prêt à s'installer aux commandes des affaires étrangères. C'est une information du Parisien aujourd'hui en France. Et l'appel à cet ancien ministre de gauche n'est pas du goût de certains proches de Nicolas Sarkozy. Patrick Devedjian a souligné hier devant le Conseil national de l'UMP que la fidélité n'est pas forcément le contraire de la compétence. Réponse de Brice Hortefeux ce matin, le temps n'est pas celui des récompenses, mais du rassemblement des talents. Les adieux de Jacques Chirac à ses chers compatriotes. Avant la passation du pouvoir à son successeur, demain, l'actuel président de la République doit donner une ultime allocution. Elle sera retransmise dans le grand journal de Fabrice lundi à 20h. Fracture ouverte au sein du PS à moins d'un mois du premier tour des législatives. Après Dominique Strauss-Kahn, c'est Manuel Valls, le député de l'Essonne, qui accuse le premier secrétaire du parti. Pour lui, François Hollande est le seul responsable de l'échec du PS à la présidentielle. Affaire Clearstream suite et peut-être fin, la justice doit se prononcer aujourd'hui sur les demandes de non-lieu concernant les trois principaux accusés dans cette affaire de comptes occultes. Consolita Rice, elle, poursuit sa visite d'apaisement avec Moscou. La secrétaire d'État américaine doit rencontrer aujourd'hui le président russe, Vladimir Poutine. Et la Russie à couteau tiré, toujours avec l'Europe. Un accord semble difficile lors du prochain sommet bilatéral prévu vendredi. Des différences importantes séparent actuellement le Kremlin et les 27, notamment sur le Kosovo. Et une moisson de Molière hier pour la Comédie française avec 8 prix, dont 6 pour Cyrano de Bergerac. La pièce de Rostand a été récompensée notamment pour la mise en scène et les costumes de Christian Lacroix.
BFM, il est 10h30. Le journal de l'écho, Perrine Créqui.
L'INSEE prévoit une embellie, constate une embellie sur plusieurs indicateurs macroéconomiques. La dette publique s'est réduite en 2006 de 0,2 points. Elle atteint désormais 63,9% du PIB. Le déficit public, lui, se résorbe aussi à 2,5%. Quant à la croissance, elle est plus forte que prévue pour 2006. L'INSEE l'établit à 2,2%. C'est donc 0,1 point de plus qu'attendu. Philippe Wächter est le directeur des études économiques chez Natixis Asset Management. Il détaille les causes structurelles de ce résultat.
Quand on regarde le détail néanmoins, on a une demande intérieure, c'est-à-dire une consommation, un investissement qui reste plutôt bien orienté, même si ce n'est pas spectaculaire, mais ça reste bien orienté. Mais surtout, on a enfin un commerce extérieur qui contribue positivement. Ce qu'on constate surtout, c'est que les exportations ont progressé très rapidement, et c'est ça qui nous intéresse ici. Alors en fait, l'ajustement par rapport aux anticipations des économistes vient d'un mouvement sur les stocks qui est assez important et qui est toujours difficile à anticiper.
Philippe Wächter était l'invité de Stéphane Soumier ce matin dans Good Morning Business. Nicolas Sarkozy doit achever aujourd'hui ses consultations préliminaires des partenaires sociaux. Ce sont aujourd'hui les représentants de Force ouvrière, de la CFTC et de l'UNSA qui doivent être reçus rue Saint-Dominique. Les discussions sont détendues. Elles ne portent pour l'instant que sur la méthode et le calendrier des futures négociations. Pas de stock option cette année pour Henri de Castres. Le président du directoire d'AXA a choisi de renoncer à cet avantage. Dans un entretien au Parisien publié ce matin, il estime qu'il en détient déjà assez et aussi que la distribution des stock options ne doit pas être automatique. La plus-value actuelle de ces titres est estimée à 70 millions d'euros. Dans l'affaire du Golden Parachute de Noël Forjar, le coprésident exécutif allemand de ADS pointe les responsabilités aujourd'hui. Thomas Enders assure que le gouvernement français nous a tordu le bras pour faire valider ce montant. Un montant de 8,5 millions d'euros d'indemnité que l'ancien président d'Airbus a touché lors de son départ. Thomson est parvenu à un accord pour le rachat de Reuters. Le groupe d'information financière canadien va s'offrir son homologue britannique pour 8 milliards 700 millions de livres, soit près de 13 milliards d'euros. La nouvelle entité deviendra le leader mondial du secteur devant Bloomberg. Eurotunnel tire la sonnette d'alarme auprès de ses actionnaires. L'offre publique d'échange des actions du tunnelier sous la Manche remporte moins de succès que prévu. Il reste cependant 3 jours ouvrés pour souscrire à cette offre qui doit donner naissance à une nouvelle société moins endettée. Jacques Gounon, le PDG d'Eurotunnel, souhaite l'abaissement du seuil de réussite de l'opération de 60% prévu à seulement 50% d'actions converties. Une demande qu'il a adressée hier à l'autorité des marchés financiers. Et Paul Wolfowitz doit être entendu aujourd'hui par les 24 administrateurs de la Banque mondiale. Ils devront ensuite le conforter à la tête de l'institution ou bien le destituer. Paul Wolfowitz est accusé d'avoir appuyé personnellement une demande d'augmentation de salaire de sa compagne. Après cette audition, un G7 téléphonique pourrait avoir lieu. BFM, il est 10h33.
Toutes les demi-heures, un journal de l'économie uniquement sur BFM.
Et place à Philippe Manière pour la suite des grands débats de BFM.
BFM, les grands débats du mardi, Philippe Manière.
Que propose le PS, l'UDF, bien sûr l'UMP pour réduire le train de vie de l'État? Que va-t-il se passer dans cette matière avec l'arrivée officielle à l'Élysée dans quelques jours de Nicolas Sarkozy, le nouveau président? On en parle aujourd'hui dans les grands débats de BFM avec l'Institut Montaigne et avec mes invités. Christian Bataille, député socialiste du Nord, vice-président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Hervé Novelier, député UMP d'Indre-et-Loire, préside le groupe des réformateurs à l'Assemblée. Il est membre de la Commission des finances. Et puis Charles de Courson, grand spécialiste des questions budgétaires, est lui député UDF de la Marne. Alors, je voudrais qu'on regarde avec vous, Charles de Courson, comment on peut répondre à Christian Bataille. Lui, il nous dit, vous voulez diminuer les dépenses, c'est bien joli, mais qu'est-ce que vous m'enlevez? Des policiers, on en a besoin. Des infirmières, il nous en faut toujours plus. Des instituteurs, c'est nécessaire pour défendre l'école de la République, etc., etc. Comment faire pour diminuer la dépense publique, pour diminuer le nombre de fonctionnaires sans tailler dans les missions régaliennes et j'allais dire, en gardant les mêmes objectifs stratégiques d'un pays qui n'est pas un pays de totale liberté en termes de couverture des individus dans certains domaines clés comme l'éducation et comme la santé?
Oui, mais attendez, nous parlons du budget de l'État.
Oui.
Ça n'est pas l'État qui finance le budget des hôpitaux, c'est la sécurité sociale et les cotisations sociales des Français, la CSG. Donc là, on est sur le débat sur l'État. La première chose, et je partage l'analyse d'Hervé Novelli, c'est le périmètre de l'État, c'est-à-dire de clarifier les compétences de l'État, notamment au regard des collectivités locales. Je vais vous prendre 2 exemples. On a eu un rapport récent de l'Inspection générale de l'administration qui montre qu'on a transféré l'essentiel de l'aide sociale au département, ouais, par la loi Defferre. Donc ça remonte pas à hier, ça remonte à 1983. Et qu'est-ce qu'on constate? Que la direction des affaires sociales au ministère de la Solidarité, elle existe toujours et elle a augmenté ses effectifs pendant la même période.
C'est, honnêtement, ça c'est vraiment surréaliste. On peut dire la même chose de beaucoup de domaines. Hein.
Alors,
l'équipement, c'est un
exemple.
Peu la même chose.
Oui, je vais donner un deuxième exemple. La formation professionnelle. Ouais. Là, on a décentralisé cela et c'est une très bonne chose et ça marche globalement plutôt bien entre la main des conseils régionaux,
oui,
une bonne partie de la formation professionnelle. Eh bien, la direction de la formation professionnelle au ministère de l'Emploi, elle n'a pas réduit ses effectifs. On pourrait prendre bien d'autres exemples. Prenez l'exemple du ministère de l'Agriculture. Est-ce qu'il est cohérent d'avoir un nombre d'agriculteurs qui a baissé grosso modo de 2% par an depuis des années et un ministère de l'Agriculture qui ne s'est pas recalibré? Vous voyez, on voit bien qu'on a une vraie réflexion, et quelle que soit notre sensibilité politique. Donc la première chose, c'est clarifier les compétences de l'État et tirer les conséquences des choix qui ont été faits, notamment en matière de décentralisation, mais aussi en termes d'autres choix, de transfert plutôt vers la sécurité sociale d'un certain nombre de compétences de l'État ou d'autres. Et ne parlons pas pour le moment de santé, puisque, je le répète, c'est pas dans les effectifs de l'État les personnels de santé.
Bon, c'est quand même c'est quand même la fonction publique hospitalière, et donc là, il y a quand même des impulsions qu'on...
Non, mais je croyais qu'on parlait de l'État.
On va parler de l'État, et voilà. Vous avez raison de nous ramener à notre sujet, mais voilà. Je veux dire, les bataillons de la fonction publique hospitalière sont tellement importants et nombreux qu'on ne peut pas ne pas
oui,
en parler en passant.
Écoutez, il y a 2,5 millions 200 000 fonctionnaires de l'État. Il faut rappeler quand même quelques chiffres de base. Il y en a 800 000 fonctionnaires hospitaliers. Mmh. Et il y a grosso modo 1,7 million, presque 1,8 million maintenant de fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire des collectivités territoriales.
Ce qui au passage est énorme aussi, les collectivités territoriales.
Charles Lecomte.
Ça n'a pas baissé non plus, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et puisque nous parlons de l'État, il faut ajouter aux fonctionnaires de l'État, dont je parlais, celle de 1,2 million, ce qu'on appelle les opérateurs au sens de la LOLF, c'est-à-dire tous les organismes dépendants de l'État et auxquels l'État confie la gestion d'un certain nombre des missions. Alors, je dis cela parce que nous avons fait un travail en commission des finances extrêmement intéressant qui montre que, grosso modo, depuis 3 à 4 ans, les effectifs de la fonction des organismes dits opérateurs au sens de la LOLF ont augmenté de 10 000 emplois chaque année. Pendant ce temps-là, on diminuait péniblement les meilleures années de 10, 12, 13 000. Mmh. On voit bien, si vous voulez, qu'il ne faut pas simplement parler des effectifs de l'État, mais de l'État et des opérateurs au sens de la LOLF. Mmh. Bon, parce que sinon... Ouais.
Ce que vous nous dites, Charles de Courson, c'est que ce n'est pas la peine de tailler dans ceux qu'on aime tous, c'est-à-dire les effectifs des infirmières. D'ailleurs, c'est hors du cadre d'État, vous avez bien fait de le rappeler. Des instituteurs, des policiers, des magistrats dont on aimerait tous voir que leurs administrations fonctionnent bien et qu'ils soient épanouis, heureux et suffisamment nombreux. On peut vraiment tailler dans la dépense publique et dans le train de vie de l'État en taillant dans des administrations dont pratiquement la vocation a disparu avec... avec la décentralisation.
Bien, effectivement, première grande mesure, peigner l'ensemble de l'organisation de l'État et en tirer les conséquences en termes d'organisation quand on a transféré des compétences ou quand certaines compétences n'ont plus lieu d'être. Deuxième aspect qui est très important, utiliser les nouvelles technologies, ce qu'on a fait mais très insuffisamment, pour augmenter la productivité des administrations. Je vais vous donner deux ou trois exemples.
Les
bourses.
Rapidement.
Prenez les bourses. Est-ce qu'il est normal qu'on demande aux familles qui ont des enfants boursiers de déposer un dossier chaque année dans lequel ils redonnent l'ensemble des éléments sur leurs revenus, etc., alors que par une simple ligne informatique branchée entre les rectorats qui gèrent les bourses et les services fiscaux, on a tous ces éléments. Donc, là encore, on peut beaucoup faciliter et économiser, si vous voulez, des personnels pour un meilleur service rendu.
Ouais.
Je pourrais vous donner l'exemple des allocations familiales, puisque enfin, on va créer ces lignes informatiques qui permettront aux services, celle-là, cette fois des CAF, de gérer ces prestations avec des lignes directes informatiques et ne pas obliger chaque année toutes les familles, quand ils ont des prestations sous condition de ressources, à fournir les avis d'imposition, etc.
Non, mais Charles de Courson, si on va jusqu'au bout, moi je comprends tout à fait ce que vous me dites et ça me paraît frapper au coin du bon sens, pour être très honnête, mais ça veut dire qu'il va falloir annoncer aux salariés, aux fonctionnaires des administrations que vous avez évoquées dans votre premier développement et puis à ceux que vous venez d'évoquer dans votre deuxième développement, la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire on va réduire vos effectifs parce qu'il n'y a pas de raison... Non, mais pardonnez-moi, je le dis parce que ça fait...
Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle.
Non, attendez, moi je veux bien, mais il n'empêche que cette bonne nouvelle, personne ne l'a annoncée depuis 5 ans, la droite est au pouvoir et vous ne l'avez pas collectivement annoncée à ces gens-là.
Écoutez,
pourquoi ça n'a pas été fait avant et pourquoi ça pourrait être fait, maintenant, voyez ?
Pour ce qui me concerne, je permets quand même de rappeler, Hervé Novelli le disait tout à l'heure...
On va lui donner la parole dans un instant.
...que Nicolas Sarkozy l'a dit. Bon, le problème, c'est de la mise en place. Moi, je pense qu'on peut gagner peut-être de l'ordre de 1% de productivité. C'est tout à fait raisonnable chaque année. Mais pour ça, il faut une meilleure organisation. Il faut utiliser les technologies modernes de l'information et des communications. Il faut associer les fonctionnaires au juste retour de ces efforts.
D'accord.
C'est-à-dire que quand un service, moi je l'ai fait il y a bien longtemps, j'ai été pendant 2 ans et demi au ministère de l'Industrie, j'ai passé un accord avec les syndicats. Qui est que plus notre productivité augmentait, plus les primes augmentaient.
Ben,
vous savez combien on a fait de productivité sur le service des industries de mesure ? On faisait du 5% de productivité chaque
donc
année.
Ça veut dire que c'est possible. Allez, on fait tourner la parole, Charles de Courson, on reviendra vers vous dans un instant. Hervé Novelli, c'est à vous que je dois poser la question. Après tout, c'est vous qui êtes ici, j'allais dire, le plus explicitement, le plus clairement, le représentant de la majorité présidentielle qui va être renouvelée au Parlement. Mais enfin, vous êtes un proche de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui fait que je peux croire, que nous pouvons croire que Nicolas Sarkozy va faire maintenant ce que la droite n'a jamais fait, c'est-à-dire faire effectivement ça, taillé. Enfin, Nicolas Sarkozy le disait dans le débat entre les deux tours, il y a toujours 20 000 douaniers alors qu'il n'y a plus de frontières. Alors c'est un peu schématique, mais comment on fait en France pour faire ce qu'on n'a jamais fait, c'est à dire aux gens qui ont perdu leur fonction sociale qu'on va fermer leurs services.
Bien d'abord,
c'est important.
La campagne, de ce point de vue, était très importante. Et moi, je suis très heureux que pendant cette campagne, Nicolas Sarkozy ait dit qu'il dirait tout pour faire après. Donc il y a à la fois dans ce qui a été la campagne et ensuite la réflexion et ce que va faire Nicolas Sarkozy, je crois qu'il y a des éléments qui sont très importants. Ce sont des éléments de la crédibilité d'un candidat qui a dit beaucoup de choses avant, qui a été élu largement avec une participation extraordinaire. Donc il y a une légitimité à agir. Donc on peut agir, donc on va agir. Je partage pour l'essentiel ce qui a été dit par Charles Amédée Dubuisson. Je voudrais ajouter d'autres choses en ce qui concerne cette réduction du train de vie de l'État, mais je pense qu'il faut élargir les choses et dire oui. Réduction de la dépense publique. Il y a quand même de faire en sorte, il indiquait quelques exemples, je voudrais à mon tour prolonger cela, il y a quand même, il faut tirer les conséquences enfin de la décentralisation. On ne peut pas continuer à décentraliser et à conserver des services qui ont été en principe transférés.
Oui, mais ça fait 25 ans qu'on fait ça. Donc moi je veux bien qu'avec vous tout change, mais jusqu'à maintenant la gauche comme la droite a fait exactement ce que vous dites.
Justement, si Nicolas a été élu, je crois aussi largement, c'est parce qu'il a obtenu d'une certaine manière un permis
et un mandat pour faire ça,
d'action et un permis de réforme. Donc il faut le faire et on va le faire. Il y a donc cette décentralisation qu'il nous faut achever. Il y a aussi la revue de toutes les dépenses de l'État. Ça avait été commencé sous le précédent gouvernement, les audits de modernisation. Ce sont des audits qui ont été utiles, puisqu'ils ont permis de dégager des sources d'économies de plusieurs milliards d'euros. Donc ça, c'est important. Mais il faut évidemment aller beaucoup plus loin et faire en sorte que cette nouvelle organisation des lois de finances, qui nous permet d'avoir une appréciation très claire des moyens affectés à chaque mission, eh bien que cette nouvelle appréciation nous soit utile. Il y a des missions qui doivent être supprimées parce qu'elles ne rencontrent pas d'utilité. Et puis, il y en a d'autres qui doivent être renforcées. Je crois qu'il faut assumer le fait qu'il y aura moins de fonctionnaires, mais qu'ils seront mieux payés dans le cadre d'un contrat de modernisation.
Et qu'il n'y en aura plus du tout là où ça ne sert à rien,
parce qu'il est normal que dans toute entreprise, et l'État d'une certaine manière, c'est une entreprise de ce point de vue, lorsqu'il y a des fonctions qui sont inutiles, on les supprime.
On marque une nouvelle pause, on se retrouve avec vous dans un instant à Vénovelli avec Christian Bataille, avec Charles de Courson. Que propose le PS, l'UDF, l'UMP pour réduire le train de vie de l'État? C'est notre premier des grands débats du jour.
Bourse, placement, banque, assurance, immobilier, retraite. Avec BFM et la BPE, Banque Privée Européenne, testez vos connaissances tous les samedis et gagnez 1000 euros en jouant au défi d'initié. Inscrivez-vous sur www.bpe.fr. Le défi d'initié avec la BPE, Banque Privée Européenne, c'est 1000 euros à gagner tous les samedis à 11h45 sur BFM. BFM, la radio de l'écho.
En direct des marchés avec David Doba.
Et avec un CAC 40 qui continue d'évoluer en territoire négatif, moins 0,2% actuellement à 6011,32. Un CAC entraîné au sein du SRD par Valeo, plus forte baisse actuellement, moins 3,1%, 39,62€. Plusieurs fonds d'investissement, parmi lesquels Pay Partners, auraient finalement renoncé à déposer une offre, jugeant le prix trop élevé. Thales en repli également, moins 2,3%, 43,51€. C'est également le cas de Maroc Télécom, moins 2,1%. 1% à 11,92€, ou bien de TF1. À TF1, au repli de 1,6%, 24,71€. Contre la tendance, on retrouve Technip, plus 1,4%, 55,77€. Le bénéfice trimestriel a progressé de 169% au premier trimestre et le résultat opérationnel courant de 237%. Renault en hausse d'1,2% actuellement à 100,61€. Vinci plus 1,2% également à 118,30€. Voilà, je rappelle le CAC actuellement en repli de près de 0,3%.
Tous les quarts d'heure, un point sur les marchés boursiers, uniquement sur BFM. BFM, les grands débats du mardi, Philippe Manière.
Que propose le PS, l'UDF, l'UMP? Que proposera le nouveau président de la République pour réduire le train de vie de l'État? On en parle avec Christian Bataille. Il est député socialiste du Nord, vice-président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Hervé Novelli est député UMP d'Indre-et-Loire, président du groupe des réformateurs à l'Assemblée, membre de la Commission des finances également. Membre Charles de Courson, député UDF de la Marne. Hervé Novelli, rapidement quand même, sur ce point que vous avez évoqué juste avant la pause, c'est-à-dire on va faire une revue de détails, on ne va pas hésiter à dire on ferme telle et telle chose. Est-ce que vous pouvez nous dire que quand il va être revenu de sa retraite, quand il va avoir créé les conditions nécessaires, c'est-à-dire nommer son gouvernement, le président de la République est susceptible de soutenir un gouvernement qui dira ça on ferme, ça on ferme, ça on ferme, et ça dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, ces fonctionnaires-là auront été versés ailleurs parce qu'ils n'ont plus d'utilité. Ce qu'on n'a jamais vu en France depuis 30 ou 40 ans.
C'est pour cela que Nicolas Sarkozy a été élu, donc il va le faire, il sera soutenu par une majorité pour cela, et cette majorité jouera un rôle très important. Je voudrais quand même insister sur le fait que le Parlement, la Commission des finances, mais aussi un éventuel organisme qui gérerait, qui contrôlerait les dépenses de l'État, comme se fait par exemple en Angleterre. Dans le programme législatif de l'UMP, il y a la création de cet organisme qui est institué, et je pense que nous pourrions obtenir très rapidement de très grands résultats parce que cela se fait ailleurs. Je citais l'exemple de la Grande-Bretagne.
On parlera dans la deuxième heure de tout ce qui se fait dans les pays du nord de l'Europe qui ont fait beaucoup de progrès.
La Cour des comptes peut jouer un rôle, mais je pense que le Parlement devra jouer tout son rôle. Et moi, je fais confiance malgré tout aux parlementaires qui, là...
Pardon, Hervé Novelli, pour cette impertinence, mais si les parlementaires commencent à être désireux de réduire la dépense publique, c'est une révolution copernicienne. Parce que jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas vu beaucoup de parlementaires qui taillent dans la dépense. Généralement, ils amassaient la dépense.
Ils essayaient de le faire. Et vous savez que les lois de la Ve République donnent au gouvernement beaucoup de moyens pour faire que cela ne se passe pas.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Avec ce que souhaite le président de la République, et je l'espère avec la majorité qui sortira des urnes dans quelques jours, nous pourrons jouer notre rôle en matière de contrôle de la dépense.
C'est possible à institution inchangée ?
C'est possible à institution inchangée si nous savons changer nos pratiques et jouer un véritable rôle de contrôle, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
Allez, on donne la parole à l'opposition, puisque après tout, c'est vrai, vous êtes un peu de contre un, puisque Charles de Courson s'est rallié à Nicolas Sarkozy et Christian Bataille, je reviens vers vous. Votre sentiment sur les conditions dans lesquelles on pourrait éventuellement réduire la dépense publique, réduire les effectifs de l'État, sans malgré tout réduire la qualité du service rendu, c'est pas absurde, ça c'est théoriquement imaginable de supprimer les postes fonctionnaires là où il y a moins d'utilité, si vous voulez.
J'observe d'abord avec amusement que mon excellent collègue Hervé Novelli nous dit que le Parlement et le gouvernement, ce n'est pas la même chose. C'est pas ce que j'ai observé depuis quelques années. Le gouvernement Raffarin et le gouvernement de Villepin marchaient la main dans la main avec leur majorité parlementaire. Faut pas nous raconter d'histoire.
Oui, c'est rare que le Parlement se rebiffe contre l'exécutif sous la 5e, et honnêtement, Christian Bataille, c'est pas tellement plus courant sous la gauche que sous la droite.
Ça risque pas d'arriver. Ils ont été bien obéissants, ils vont continuer à l'être, et c'est pour ça qu'il faut changer de majorité parlementaire. La meilleure façon de s'assurer l'indépendance du Parlement, c'est de choisir une majorité parlementaire qui ne soit pas celle du président. Ça, c'est une garantie. Alors, revenons au débat. Tout d'abord, je ne comprends pas ce distinguo qui est fait sur les dépenses hospitalières. Nous votons bien à l'Assemblée nationale le budget de la Sécurité sociale. Et qu'on ne fasse pas croire que l'on se montrerait généreux avec l'hôpital au moment où on réduit, où on fait dominer une logique d'austérité au niveau des dépenses de l'État. Alors j'écoute ce que dit Monsieur de Courson, ou ce que dit Monsieur Novelli. Il parle avec une certaine gêne. Ils choisissent des exemples bien ciblés. Grosso modo, on ne touche pas au gros bataillon, mais on va réduire de petites cohortes.
C'était très spectaculaire dans le débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Tout le monde était d'accord pour taper sur les 20 000 douaniers et tout le monde était amoureux des 800 000 infirmières.
Le compte n'y est pas. Ouais. Entre la volonté forte exprimée par M. Sarkozy, ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, et sa traduction concrète, moi, je n'entends pas les moyens. D'ailleurs, je ne vais pas m'en plaindre. Je suis de ceux qui pensent que l'État doit continuer à disposer.
Non mais Christian Bataille, pardon, je vais être direct avec vous. Je comprends ce que vous dites et je suis très sensible, comme tous les Français, à l'idée qu'on veut des services publics qui fonctionnent, etc. Mais en fait, tout de même, vous pouvez être malgré tout accessible à la raison élémentaire qui laisse à penser, quand on regarde ce qui se fait à l'étranger, qu'on peut avoir des services performants sans avoir un million de fonctionnaires de plus tous les 3 ou 4 ou 5 ans. Il n'y a pas de corrélation directe entre le nombre de fonctionnaires et la qualité du service.
Oui, alors... Parlons du transfert des compétences,
oui.
Hein, puisque c'est de ça qu'on parle, on mélange tout. On dit que l'augmentation du nombre de fonctionnaires est due aux collectivités locales, mais l'État transfère ses compétences. Et M. de Courson nous dit, mais on va réduire le nombre de fonctionnaires de l'État et on va continuer à transférer les compétences. Si bien que les départements et les régions se trouvent aujourd'hui avec des charges insupportables. Et ça ne s'appelle pas... une réduction du nombre de fonctionnaires ou des moyens de l'État. Ça s'appelle un transfert aux collectivités.
D'accord, Christian. Non, mais ça, je comprends, Christian Bataille. Et certainement, les choses doivent être clarifiées. D'ailleurs, votre candidate insistait sur ce point. Elle avait sans doute raison. C'est-à-dire, si on savait exactement qui fait quoi, ce serait probablement un peu plus simple. Mais, et les moyens transmis. Mais cela dit, Christian Bataille, est-ce que vous admettez qu'au fil du temps, un certain nombre d'agences, d'organismes publics peuvent avoir perdu leur vocation et qu'il est de bon sens de les supprimer ou de réduire leurs effectifs?
Oui. Mais alors, je répondrai d'une boutade comme Charles de Courson l'a fait tout à l'heure pour esquiver le débat sur le train de vie de l'État. C'est une goutte d'eau par rapport à l'océan du budget de l'État. Ces agences, ces petits services, etc., ne sont pas d'un poids décisif. Tout à l'heure, Charles de Courson a évité le débat sur le train de vie de l'État en disant « mais finalement, dans le budget de l'État, c'est peu de choses ». Eh bien, moi, je vous dirais que les demandes de réduction de services publics qui sont faites représentent une toute petite proportion du budget de l'État et de l'armée.
Ouais.
Donc,
si je comprends bien, Christian Bataille, vous nous dites si on veut être efficace dans la réduction d'effectifs, il faut taper dans le cœur de l'État ce à quoi vous êtes attaché, c'est à l'éducation nationale, les hospitaliers, etc. etc. Hein, donc le choix, c'est ça. Charles de Courson, allez, il nous reste moins de 2 minutes. Donnez-nous votre sentiment équilibré de centriste, fut-il rallié.
J'essaie d'être équilibré et j'ai horreur de la démagogie. Je n'ai pas du tout esquiver le débat sur le train de vie de l'État, puisque j'ai été même de ceux qui ont proposé des mesures très fortes, y compris sur les indemnités parlementaires. Donc vous voyez, je ne suis pas tout à fait, et y compris sur le régime de retraite des parlementaires. On ne peut pas donner...
ça ne vous a pas rendu très populaire parmi vos pairs, ça.
Mais ça m'est complètement égal. Ça m'est complètement égal. Ah non, donc je n'ai jamais esquivé ce débat. Je dis simplement qu'on ne redressera pas le budget de l'État en s'attaquant au seul train de vie de l'État, quand bien même vous le réduiriez de 20%.
La symbolique est quand même importante, sans doute, Charles de Courson.
Mais je suis tout à fait
pour,
et je pense que les mesures symboliques sont aussi importantes que les mesures de fond. Je dis simplement, il ne faut pas que ces mesures symboliques cachent les mesures de
fond.
Deuxièmement,
Charles de Courson.
Sur les opérateurs... Prenez sur l'aide sociale dont je parlais tout à l'heure, Monsieur Bataille, je n'ai pas du tout dit ce que vous essayez de me faire dire. L'aide sociale a été transférée par la loi Defferre. Est-ce que vous estimez normal que la direction de l'aide sociale au ministère des Affaires sociales ait augmenté ses effectifs depuis 1983? Voilà le genre de questions concrètes.
Et là, des effectifs assez importants dans lesquels on peut éventuellement réduire un nombre de postes significatifs, Charles de Courson.
Mais bien sûr, et qu'on ne veut pas se dire ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai toujours défendu un discours responsable sur la productivité des services. Et je n'ai jamais été de ceux qui ont dit qu'on pouvait réduire partout d'une façon uniforme.
Non, d'ailleurs, ça serait un très mauvais service à rendre à l'État dans son efficacité. Merci à tous les trois d'avoir été avec moi aujourd'hui pour évoquer cette question de la réduction du train de vie de l'État. Je rappelle que je recevais Charles de Courson, député UDF de la Marne, Christian Bataille, député PS du Nord, Hervé Novelli, député UMP d'Indre-et-Loire, tous trois grands spécialistes des questions de budget et des affaires économiques. Vous restez avec nous juste après la pause. On regardera comment ça se passe sur cette question de train de vie de l'État dans plusieurs pays du Nord, dont la Suède.